à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une polémique qui sature régulièrement l'espace médiatique et politique. Il s'agit du financement de l'école privée. Tout est parti d'un fait divers frappant à Moncontour, en Bretagne, où un maire a démissionné après que sa maison a été taguée du chiffre 30 000. 30 000 en référence à une subvention versée à l'école catholique locale. Ce chiffre est devenu le symbole d'une guerre scolaire que certains croyaient enterrée, nourrie par l'idée que l'argent public serait détourné au profit d'intérêts particuliers. Mais qu'en est-il réellement ? Derrière les slogans idéologiques, les chiffres racontent une histoire bien différente. N'y a-t-il pas un fantasme de l'argent public, une manipulation idéologique ? En effet, l'idée que le contribuable du public paye pour le privé est un sophisme qui ne résiste pas à l'analyse comptable. Car en réalité, le privé fait économiser l'État. Contrairement aux idées reçues, un élève dans le privé sous contrat coûte deux fois moins cher à la collectivité qu'un élève du public. Les sources sont formelles. Là où l'État dépense environ 8 000 euros par an pour un élève du public, il n'en dépense que 4 000 à 5 000 pour un élève du privé. Un surcoût massif si le privé disparaissait. Si les 2 millions d'élèves du privé rejoignaient demain le public, le coût pour les finances publiques serait colossal. Il serait estimé à 29 milliards d'euros par an. À Moncontour, les 30 000 euros contestés sont souvent indispensables à la survie de l'établissement, qui assure une mission de service public, ne l'oublions pas, là où la commune d'ailleurs n'a parfois pas d'autre solution scolaire. Nous sommes dans un modèle hybride et nous regardons toujours ce que l'État paye, mais regardons également ce qu'il ne paye pas. Rappelons avec force que le contrat avec l'État n'est pas un chèque en blanc. L'État ne finance que le strict nécessaire pédagogique. Il paye les salaires des enseignants, bien sûr, qui ont, rappelons-le, les mêmes diplômes que dans le public. Il paye également l'encadrement pédagogique, mais les familles payent tout le reste, c'est-à-dire l'entretien, la rénovation des bâtiments, l'encadrement supplémentaire des surveillants, des responsables de niveau, le projet pastoral, qui est exclusivement à la charge des parents et des dons. La réalité financière, c'est que l'État ne finance environ que 40% du coût global d'un établissement privé sous contrat. Le reste est un effort privé qui soulage directement le budget national. Il y a donc, rappelons-le, la nécessité d'un service public pluriel. Car les établissements sous contrat relèvent du service au public. Défendre l'enseignement catholique, c'est aussi défendre la loi Debré de 1959, un pilier de la paix civile qui a intégré le privé au service public d'éducation. Le caractère propre est aussi un atout pour la nation, car le projet éducatif ne se limite pas aux religieux dans les établissements sous contrat. Il propose une éducation que l'on appelle intégrale, c'est-à-dire intellectuelle, humaine, relationnelle, qui est fondée sur des valeurs de solidarité et de respect de la dignité humaine. Il y a l'enjeu de la liberté de choix. Les élus locaux le savent également, le choix entre public et privé est une liberté fondamentale pour les familles, qui cherchent souvent un cadre éducatif et un suivi personnalisé, plutôt qu'une éducation confessionnelle stricte. Un acteur de l'aménagement du territoire, car dans de nombreuses communes rurales, notamment en Bretagne, l'école privée est parfois la seule école du village. Sa fermeture ne profiterait pas au public en réalité. Elle viderait simplement les bourgs de leurs familles. Le problème posé à Moncontour montre que le débat est pollué par une méconnaissance des règles de financement. L'enseignement catholique n'est pas un ennemi du public, mais c'est bien un partenaire économique avantageux et pédagogiquement nécessaire. L'enseignement catholique sous contrat n'est pas une charge, mais plutôt une solution. Il permet à la France de scolariser 20% de sa jeunesse, avec un niveau d'exigence au moins identique au public, mais pour un coût deux fois moindre pour l'État. Il est temps de passer de l'idéologie à la réalité comptable et éducative. Le modèle hybride est le garant d'une école à la fois autonome, encadrée et résolument au service de tous.